France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver, de poursuivre ces rendez-vous autour des livres sur la musique. Pour démarrer cette nouvelle saison, je vous propose, sinon de découvrir, de mieux connaître une figure de la musique française du dernier 19e siècle et du premier 20e, la compositrice Mel Bonis. Contemporaine de Debussy, qu'elle côtoya sur les bancs du Conservatoire de Paris, elle meurt la même année que Ravel, en 1937. Quelle musique a-t-elle laissé? Quelle en fut la réception? La carrière de Mel Bonis fut-elle représentative de celle des femmes artistes de son temps? Pourquoi Mel Bonis aujourd'hui? Autant de questions auxquelles répond avec précision un ouvrage collectif coordonné par Étienne Jardin, mon invité. Mel Bonis, 1858-1937, parcours d'une compositrice de la Belle Époque, sous la direction d'Étienne Jardin, publié par Actes Sud, Palazzetto Bruzzane. Laurent Martin au piano interprétait le Balabil, le premier mouvement de la suite en forme de valse opus 35 de Mel Bonis. Bonjour Étienne Jardin.
Bonjour.
C'est donc vous qui avez coordonné cet ouvrage collectif consacré à la compositrice Mel Bonis, ouvrage collectif qui réunit une douzaine d'auteurs et qui présente aussi bien la vie que l'œuvre de cette compositrice que l'on redécouvre depuis quelques années. Et j'ai envie de vous demander, tout simplement pour commencer, pourquoi Mel Bonis aujourd'hui, Étienne Jardin?
Mel Bonis fait partie des figures qui émergent depuis une quinzaine d'années,
oui.
Pour de nombreuses raisons qu'on essaye de montrer aussi dans le livre, parce que le livre accorde une part à ce chemin qu'elle refait vers les auditeurs aujourd'hui. Et donc pourquoi? Notamment parce que une de ses descendantes, Christine Géliot, lui a consacré une première biographie il y a maintenant presque 20 ans.
C'est une des collaboratrices d'ailleurs de cet ouvrage.
Oui, on ne pouvait pas vraiment faire ce livre sans elle,
ouais.
Notamment puisqu'elle est aussi détentrice de toutes les archives de cette compositrice. et qu'elle a entrepris avec l'association Melbonis la réédition de ces partitions pour les rendre disponibles plus facilement aux interprètes. Ce qui explique aussi pourquoi ces œuvres sont de plus en plus jouées, de plus en plus enregistrées, c'est qu'elles sont aussi faciles à obtenir.
Donc accès aux archives familiales et accès également aux partitions. Donc évidemment deux facteurs qui coordonnés expliquent ce renouveau, cette redécouverte de cette compositrice.
Oui, et puis qui se superpose à un regain d'intérêt qu'on a aujourd'hui pour les figures de femmes compositrices, puisqu'on se rend compte qu'il y a vraiment un manque dans notre histoire de la musique officielle de figures féminines et que de plus en plus de personnes commencent à questionner cette absence et donc se demander pourquoi, mais aussi tout simplement essayer de prouver par l'exemple qu'elle mérite d'exister.
Alors c'est vrai qu'en France, en tout cas, on redécouvre des compositrices, notamment grâce au disque, un petit peu au concert, mais surtout grâce au disque, des compositrices comme Louise Farinck, Marie Jaël, Augusta Holmès. Est-ce que le mouvement est identique dans d'autres pays, ailleurs qu'en France ?
Oui, c'est un mouvement assez général. Je pense que les Américains étaient assez précurseurs dans ce domaine, mais les Allemands suivent très bien. Il y a des centres de recherche qui sont consacrés intégralement aux compositrices et les Italiens s'y intéressent aussi. On organise cet automne un grand colloque sur les compositrices en Europe. Ces colloques normalement durent 3 jours et là on est obligé de faire une 4e journée tellement on a eu de réponses de tous les pays européens qui présentent des travaux sur les compositrices du 19e. Donc il y a vraiment un intérêt généralisé en ce moment, globalisé autour de ces questions et qui est au profit de tout le monde, à la fois des auditeurs qui vont entendre des nouvelles œuvres.
Oui, c'est ça, oui, découverte d'un nouveau répertoire, ce qui est toujours intéressant.
Ouais. Et les historiens qui vont un peu élargir leur connaissance de ces questions.
Le côté biographique de Melbonis est évoqué, entre autres, par un dialogue imaginaire entre la compositrice et Florence Launay, qui travaille beaucoup, justement, sur les compositrices du 19e siècle. Il y a même un site qui leur est consacré, compositrice 19, si j'ai bonne mémoire. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots sur le parcours de cette femme? Et d'ailleurs, Melbonis, c'est pas exactement son nom, Étienne Jardin.
Alors, Melbonis est née Mélanie Bonis et ensuite est devenue Madame Domange en se mariant à l'issue de ses études au conservatoire en 1881, je crois. Et son parcours, c'est un parcours un peu atypique.
Elle vient d'un milieu modeste.
Plutôt modeste. Son père était horloger, sa mère passementière. Donc, toute son origine familiale est plutôt du milieu ouvrier. Mm-hmm. Mais il y a une progression sociale de la famille, avec l'espoir de voir les filles de la famille épouser de riches industriels parisiens, ce qui les réussissent, puisque les deux jeunes filles du couple Bonis se marie avec des grands bourgeois parisiens. Et donc, Mélanie Bonis devient une figure de la haute société parisienne.
Ouais.
Et commence à composer et à publier sous un nom d'emprunt qui est son nom de jeune fille diminué. Elle devient Melbonis. Il est difficile de savoir exactement aujourd'hui si elle voulait absolument cacher son genre, pas montrer qu'elle était une femme ou si c'était une façon d'être chic. Mmh. En tout cas, c'est un nom qu'elle a gardé, qu'elle a conservé tout le long de sa carrière pour signer ses œuvres.
Et il y a même certaines de ses œuvres qu'elle publie sous pseudonyme masculin, ce qui était fréquent à l'époque. On pense aussi à certaines écrivaines, comme par exemple George Sand ou Gabriel Stern.
Oui, c'est vrai qu'elle nous aide pas toujours parce que parfois, quand on a essayé de refaire le catalogue de ses œuvres, on voit bien qu'il y a des œuvres qui sont d'elle, mais qui ont été déposées à la SACEM sous des noms d'emprunt, des noms russes.
Oui.
Donc il n'y a pas seulement le jeu sur le genre, mais aussi le jeu sur l'appartenance à telle ou telle école musicale pour brouiller les cartes vis-à-vis de ses lecteurs. Elle a aussi déposé certaines de ses partitions sous le nom de ses enfants.
Mmh. Alors, elle démarre la musique plutôt comme autodidacte avant d'entrer au conservatoire, où elle côtoie, je l'ai dit en introduction, Debussy dans la classe d'Ernest
Guiraud,
je crois, oui, c'est ça. Elle sera également auditrice des cours de César Franck, mais elle interrompt ses études au conservatoire, elle ne va pas jusqu'au bout.
Elle ne va pas jusqu'au bout parce qu'elle se marie.
Parce qu'elle se marie, ouais.
Et aussi parce que à cette époque, aller jusqu'au bout des études de composition au conservatoire, c'est pour une femme finalement Impossible, puisqu'elles ne peuvent pas participer au prix de Rome. Donc, ce pourquoi les élèves en ce qu'on appelle aujourd'hui les classes d'écriture au conservatoire à l'époque travaillent, en fait, ne lui est pas accessible. Donc, s'arrêter à ce moment-là, c'est sans doute un échec, puisqu'elle n'a pas son prix de sa classe, mais d'une certaine manière, ça ne l'empêche pas d'avoir quand même acquis un savoir important au conservatoire et de se lancer comme compositrice, mais alors, pas comme compositrice interprète. Tant qu'elle est mère de famille et qu'elle élève ses enfants, elle va juste se contenter de publier des pièces pour piano.
Je n'aurais jamais cru qu'une femme fût capable d'écrire cela. Elle connaît toutes les roueries du métier, aurait déclaré Camille Saint-Saëns après avoir écouté ce quatuor numéro 1, quatuor avec piano numéro 1 de Melbonis, interprété ici par le quatuor Giardini. Étienne Jardin, donc l'œuvre de Melbonis se constitue, je crois, de quelques 300 pièces à peu près, distribuées entre la musique pour piano, des pièces pour orgue, la musique de chambre. Est-ce qu'elle est représentative d'un peu des compositeurs de son temps ou est-ce qu'elle est plutôt orientée vers un répertoire plutôt de salon? Il n'y a pas d'opéra, je crois, rien pour la scène.
Non, il n'y a pas d'opéra et très peu de choses vocales. Il y a quelques mélodies, mais elle ne s'est pas du tout intéressée à l'art lyrique, que l'on sache.
Oui.
Non, en fait, elle s'est consacrée beaucoup aux œuvres pour piano dans la première partie de sa vie, pendant le moment où elle était encore mère de famille et en dehors des cercles musicaux parisiens. Et une fois que son rôle de mère s'est accompli, ouais, s'est estompé, elle a eu le loisir de reprendre une place importante dans le milieu parisien et faire en fait ce que les musiciens qui avaient de son époque faisaient quand ils avaient 20 ans. Elle l'a fait 20 ans plus tard, vers 40 ans. Donc elle a commencé à composer pas mal de musique de chambre, programmée à la Société Nationale de Musique, et puis monter un peu les différents paliers, se faire programmer en concert, viser les grands concerts symphoniques, notamment les concerts colonnes. Et donc elle a élargi énormément son répertoire durant une courte période qui est entre 1900 et 1914. Puis, dans un second temps, avec à la fois des problèmes de deuil dans sa famille, des problèmes familiaux, de révélation d'enfants cachés, etc., elle s'est retrouvée à se retirer un peu plus du monde musical et à être, comme beaucoup de gens de cette génération, et même de la génération encore avant, comme Saint-Saëns, qui était encore vivant à cette époque, qui n'ont pas du tout compris ce qui se passait au niveau esthétique dans l'après-guerre et sont retrouvés à la fois paniqués et un peu désaxés par ce qui arrivait avec le groupe des Six.
Oui, bien sûr. Ouais. Étienne Jardin, vous avez consacré dans cet ouvrage collectif un chapitre justement à Melbonis et le concert. Melbonis aussi interprète de sa propre musique. Est-ce qu'elle a bénéficié d'une part des grands interprètes de son temps et elle, comme pianiste, interprète de sa propre musique, est-ce qu'elle interprétait également d'autres compositeurs?
Alors, pour répondre à la dernière question, non. Et c'est un trait caractéristique que moi j'assimile plus à une posture sociale. C'est-à-dire que elle a voulu toujours se présenter comme compositrice, mais pas comme une interprète, pas comme une musicienne professionnelle qui gagnerait sa vie avec sa musique. C'est plus quelqu'un qui approche son art d'une manière désintéressée. Et donc, quand elle a joué en concert, elle a joué ses œuvres. Elle s'est faite sa propre interprète et assez régulièrement, elle s'est faite la promotrice de son œuvre. Elle a néanmoins réussi à intéresser une jeune génération, souvent issue du Conservatoire de Paris, qui l'a secondée, qui a joué avec elle. Mais c'est vrai qu'il y a peu de grands noms musicaux qui l'ont accompagnée, à part peut-être Louis Fleury, un grand
Flûtiste.
flûtiste de son époque, qui a bénéficié d'un répertoire de Melbonis pour flûte assez important et qui l'a pas mal joué.
Michel Moragas à la flûte, Kyoko Nojima au piano. C'était le scherzo extrait de la sonate pour flûte et piano, opus 64 de Melbonis. Étienne Jardin, on évoque donc la musique de Melbonis. Je propose de nous intéresser à la réception. Comment fut-elle reçue en son temps? Est-ce qu'elle a dû supporter les éternels qualificatifs de musique féminine, c'est-à-dire charmante, légère, agréable, facile et j'en passe certainement?
Elle aurait eu du mal à y échapper. C'est la critique de presse, de toute façon, et à l'époque, presque, on sent qu'on est presque obligé de qualifier la personne. On ne va pas juste parler d'une œuvre, mais il faut aussi présenter qui est le compositeur qui nous parlait. Donc, bon, forcément, c'est une femme.
Et alors, vous dites compositeur, et à l'époque, on disait compositeur et non pas compositrice. Enfin, c'est à ce moment-là que le changement s'est opéré?
Le terme apparaît au 19e plusieurs fois dans la presse musicale, mais c'est vrai que le terme compositrice est présent dans la réception de Melbonis, en tout cas. Et peut-être que le changement est un petit peu avant, au début de la Troisième République.
D'accord.
Oui, en même temps, elle n'a pas à subir tous les compliments sur son physique ou les choses comme ça que des compositrices plus jeunes auraient pu essuyer, parce que quand elle est jugée par la presse, elle a plutôt 50 ans, donc on a un certain recul là-dessus. Et quelques journalistes, effectivement, traitent la question de la féminité de manière frontale. Puisque, en fait, autant quand Mel Bonis était étudiante, elle n'a pas pu passer le prix de Rome, autant au moment où elle arrive sur la scène parisienne, justement, le prix de Rome vient d'être ouvert aux femmes. Et c'est une grande question de savoir si les femmes sont à la hauteur des hommes et si on peut les juger voilà, dans un même concours. Et le fait que Mel Bonis ait été élève au conservatoire, qu'elle se présente comme une élève de Franck et de Guiraud, lui permet aussi de pas non plus être esquintée par la presse comme on pourrait l'être d'une compositrice complètement amateur. Donc oui, il y a des préjugés sexistes, mais la réception ne tourne pas que autour de ces questions.
Et est-ce que en cela, elle est représentative de la réception de la musique des compositrices de son temps, ou c'est un cas à part, Étienne Jardin?
Non, je pense qu'elle est assez représentatrice, d'une part, parce qu'on parle peu d'elle dans la presse. Hein, le travail qui a été effectué dans ce livre pour essayer de dépouiller tous les articles de presse qui traitent de la musique de Mel Bonis, finalement, la pêche est assez maigre.
Oui, je crois qu'il y a 220 et des poussières comparées à je sais pas combien de centaines consacrées à, je crois, à 500
Ah
ou
oui,
des
des
compositeurs de...
milliers,
Oui,
oui.
voilà. Ouais.
Non, en fait, vu que la musique de Mel Bonis, dans de nombreux cas, est jouée dans des salons ou dans des petits concerts, qu'elle est finalement réservée à une élite musicale et sociale parisienne, jusqu'au moment où elle a réussi à être programmée au Concert Colonne, on parle d'elle dans des revues spécialisées, dans des rubriques spécialisées, des revues spécialisées, vraiment. Des choses très pointues, donc qui donnent des avis divers et plutôt intéressants sur ce qui est entendu, notamment le quatuor avec piano, là, qui est très bien jugé par ses contemporains, et d'autres pièces qui sont jugées plus légères ou moins intéressantes.
Et je crois que vous évoquez sa programmation au Concert Colonne. Je crois que la musique symphonique n'a pas été très très bien reçue.
Ah, ça a été un désastre en fait. Sa seule programmation en concert symphonique a été vraiment. Alors, d'une part, a été programmée au moment des grandes inondations de Paris, donc dans un climat un peu spécial, avec des journalistes qui s'amusent à comparer le désastre des inondations et la musique de Mel Bonis. Et elle propose un concerto aux Parisiens. Enfin, c'est une fantaisie,
Fantaisie, oui.
un concerto
Pour piano et
déguisé
orchestre, quoi, oui, c'est
en
ça.
fantaisie, à une époque où le concerto est encore un genre un peu décrié dans le Paris symphonique. Et donc,
À lire le livre, ça a été très mal
les
reçu, ouais.
articles sont très nombreux et plutôt dans l'énorme majorité très mauvais et juge très mal cette musique. Et donc, je pense qu'il y a eu un contre-coup de la compositrice après ce moment qui fait que bon, elle s'est un peu détournée du genre symphonique qui pourtant était pour elle semblait pour elle important juste avant. Et parce qu'elle avait quand même repris des cours auprès de Charles Koechlin
Klein, ouais.
pour connaître le langage musical de son temps et vraiment le maîtriser. Donc une envie d'investir ce champ et un revers qui fait qu'elle s'est complètement détournée par la suite de ce type de pièce.
Thank you.
L'orchestre symphonique de Bucarest, dirigé par Benoît Fromanger, interprétait le prélude de cette très belle suite orientale, opus 48, de Mel Bonis, Étienne Jardin. Cette suite orientale de Mel Bonis existe également sous forme de musique pour piano dans le catalogue de l'œuvre qui est inclus dans cet ouvrage collectif consacré à Mel Bonis. On voit que plusieurs titres paraissent dans la rubrique œuvre pour piano, œuvre pour piano à quatre mains, œuvre pour orchestre. Est-ce que c'est... on a l'impression qu'elle a retravaillé beaucoup de pièces.
Oui, Mel Bonis. Effectivement, on s'est rendu compte là, beaucoup de retravail de pièces. Et alors, on peut expliquer ça aussi par un besoin d'être joué.
Oui, bien sûr.
Une pièce orchestrale, c'est difficile d'être programmé dans les concerts. Donc, une réduction pour deux pianos, pour piano seul, permet la diffusion plus facilement. Mais je pense qu'il y a quelque chose aussi dans le caractère de Mel Bonis, de l'ordre du ressassement des pièces et du retravail des œuvres qui ont pu être déplaire un tout petit peu et qui sont refaites par la suite, qui est évident. Il y a un chapitre entier de ce livre qui est consacré aux suites, aux différentes suites de Mel Bonis.
Qu'a fait Hélène Cao, oui.
Et Hélène Cao montre que, entre ce que l'on voit dans la presse, les descriptions données par les œuvres dans la presse et les partitions dont on dispose aujourd'hui, il y a parfois des écarts très grands, des mouvements qui changent de place, de nom, des tonalités qui évoluent. Donc oui, il y a ce ressassement chez elle qui fait qu'aujourd'hui, avoir une idée très claire de comment était une œuvre à telle ou telle époque est un peu difficile.
Très bien, merci beaucoup Étienne Jardin. Je rappelle le titre de cet ouvrage que vous avez coordonné qui vient de paraître chez Actes Sud, Palazzetto Bruzzane, Mel Bonis 1858-1937, parcours d'une compositrice de la belle époque. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, à la technique Émilie Couette, attachée de production, Annick Aumier. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, bien évidemment, je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.